du podcast Au fond des filets. Disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de balado, voici Olivier Brett.
Salut Oli, comment ça va?
Comment ça va, Big?
Ça va bien. Moi, j'ai envie d'y aller de mon petit sondage maison, moi aussi. J'ai-tu le droit?
Ben oui, vas-y.
Oli, d'ailleurs, on va juste dire aux gens là, pour le sondage aujourd'hui. Là, on est rendu à 1200 votes. Là, plus de 1200 votes. Vous pouvez voter. C'est encore sur le YouTube de la station.
Mais moi, mon sondage, il est pour une personne seulement.
OK.
Cette personne-là se nomme Ben Roger. Ben, qu'est-ce qui te fait faire le plus d'urticaire?
Dans mon cas, c'est du psoriasis.
Bon, OK, j'ai choisi ton poison. Les gens qui défèquent sur notre stade olympique ou les Chiefs?
Les gens qui défèquent sur le stade.
Ah oui?
Oui.
Puis mettons que tu as des fans des Chiefs qui défèquent sur le stade. Ça, on
là,
est
là,
où,
ça
mettons?
Va vraiment pas bien. Là, ces gens-là, je les méprise, là. Définitivement.
Parce que je t'entendais parler de Pat Mahomes, tu hâtes un peu qu'il prenne sa retraite éventuellement dans 10 ans?
Il est beau à voir, mais je suis tanné. Je suis vraiment tanné des Chiefs.
C'est correct.
Je suis vraiment tanné.
Tu vas les détester encore plus après Super Bowl.
Non, moi je pense que je vais les aimer parce que je vais les avoir battus.
C'est rare que tu portes la couleur rouille. Elle te va bien.
C'est jeudi, il n'y a pas de match aujourd'hui. Je filais à Booba Gump.
Oui, mais
fais donc les lèvres de Booba Gump.
Non, toi, t'es pas pire. Moi, toi, t'es bon pour ça, mais moi, je suis moins bon.
Ça va faire naturellement.
Ça va faire des lèvres plantureuses.
Scottie Pippen. Là, ça...
Non, c'est parce que lui, il a eu la brillante idée de se toucher les lèvres et les yeux avec du flex au flex. Ouais. Fait que ça a comme enflé.
Oh boy.
Oui, t'es me lavé.
Moi, j'ai un ancien coéquipier qui avait fait ça pour une blessure à l'aine. Ça s'était pas bien passé, son match. Il courait vite.
En passant, est-ce que tu te souviens de Garrett Burnett, l'ancien homme fort qui a joué à Naheim?
Son nom me disait un petit quelque
il
chose.
Il mangeait du Flexol avant les games.
Mangeait?
C'est une blague?
Non, c'est pas une blague. Il mangeait du Flexol
avant les games. Tu prends une cuillère pour ça?
Mais il a dû se défaire l'œsophage au complet.
Je sais pas, Big, mais il prenait ça.
Là, toi, là, c'est la journée où tu nous sors les anecdotes dégueulasses. Tantôt, c'était quoi? Je suis rentré dans la voiture, là, tu me donnais ta chronique. C'était quoi? C'était mycose des ongles?
Non, ouais,
c'est quoi cette histoire-là? J'ai failli vomir avec ton histoire de...
La piqûre, c'est Jason Smith.
Ah, la piqûre,
quand il piquait entre l'ongle et l'orteil pour arracher.
Moins souvent tes chroniques, des pieds.
Histoire vraie.
Ouais, je sais, c'est pour ça que c'est dégueulasse.
Ouais, ce qui se passe dans le vestiaire de hockey.
On va arrêter ça là.
Là, Ali, un de mes préférés, Wilfred Nancy, ton entrevue avec lui, ça fait beaucoup réagir. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, ton entretien avec lui? C'est d'ailleurs l'entraîneur que j'ai aimé le plus. Deal avec quand j'étais avec le CF.
C'est vrai. Je le connais bien. Wilfred, dis-moi, j'ai fait des licences d'entraîneur avec lui à l'époque. Après ça, je l'ai côtoyé quand j'étais entraîneur à l'académie. Pouvez-vous croire, tu sais, là où il est rendu, là, il a fait 3 finales dans la dernière année, coach de l'année, il était champion de MLS Cup en 2023. Puis ce gars-là, quand il était, puis c'est normal, là, tu sais, c'était la réalité des budgets qu'on avait, il était obligé de donner des cliniques à des enfants de 10 ans aux écoles de soccer de l'Impact pour arrondir son salaire en plus de ce qu'il faisait comme coach, comme travail de coach avec l'Académie. Là, une dizaine d'années plus tard, il est ici dans nos studios. Déjà, il a été très généreux de se pointer. C'était le 30 décembre dernier. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il a l'air d'avoir pensé à tout. Et j'y ai posé des questions. Là, c'est allé dans tous les sens. Est-ce que tu vas vouloir être sélectionneur d'une équipe nationale ou partir en Europe en premier? Bang! Il me donne une réponse. Je lui demande, comment tu gères ça, le ramadan? Tu sais, c'est une longue période. Là. C'est des semaines et des semaines où les gars, tu les pousses. Là. C'est des machines. Tu sais, genre, j'imagine, je t'aurais dit, dans le temps, je te disais, tu peux pas boire, tu peux pas manger du lever au coucher du soleil comme coach. Tu gères ça comment? Bang! Il y avait une réponse. Et les gens qui prenaient ça de haut un peu, à son départ, quand il a dit, tu sais, j'ai des valeurs, puis il se faisait un peu... on se moquait de lui un peu avec le... Ben, c'est monsieur valeur, puis on est un peu en dessous de lui.
Très peu de gens ont dit ça, hein, par contre.
Mais ça a tourné, Ça a tourné quand même pas mal, puis... Mais là, c'est comme si ça a flippé dans l'autre sens.
Ben
parce
oui.
que quand t'écoutes ce gars-là, tu te dis, waouh, c'est plate qu'il soit plus ici, mais on est vraiment chanceux de l'avoir vu passer. Si vous n'avez pas, honnêtement, là, j'inclus les hauts fonds des filets, mais aussi tous les FC 919 au cours des 6-7 dernières années. Il n'y a jamais un show dont on m'a parlé autant de ça. Si vous n'êtes pas allé le voir, allez sur la chaîne YouTube de la Commission athlétique.
Sérieux, Ali, moi, je suis tombé là-dessus samedi matin dernier.
Ah ouais?
C'était du bonbon.
Ah non.
Chapeau, c'était très, très bon.
C'est sûr.
Tu sais, puis juste pour la petite histoire, moi, je lui ai tendu une perche au début du mois de décembre. Je Wilfred, j'envoie un texto une fois de temps en temps, mais j'ai pas de contact régulier avec lui. Là. C'est pas un ami, c'est un ancien collègue. Puis je lui ai dit, si jamais t'es de passage à Montréal, pas de nouvelles pendant à peu près un mois. Puis finalement, je pense que c'est le 29 ou le 28. Il me dit, je pars le 2. Là, enlève le 2, enlève le 1er janvier.
31.
Enlève le party. Enlève le 31, ça laissait pas beaucoup. Mais on a été capable de faire ça, puis j'en étais très,
bravo,
très heureux. C'était super
bravo.
Intéressant.
Ouais, ouais, belle prise, ça. Là, l'équipe est en ville cette semaine avec la belle neige. Est-ce que tu penses que les gars aiment ça, cette partie du camp de retour à Montréal, ou est-ce qu'ils en ont que pour la Floride?
Depuis, ça dépend à qui tu parles.
Ouais, c'est
ça, je suis pas mal certain que la blonde à Samuel Piette est bien heureuse ben, que Sam soit de retour pour une dizaine de jours. Je te dirais qu'il y a deux, trois facteurs qui entrent en ligne de compte, puis c'est particulier à cette année. C'est un nouveau terrain. Ils ont mis une nouvelle surface synthétique au Collège Marie-Victorin à Montréal-Nord. Tout le monde m'en parlait lundi quand j'étais là. Peut-être pas parce que c'est la chose la plus extraordinaire que de t'entraîner sur un synthétique.
Ça fait changement?
Ben, c'est que c'est pas l'autre d'avant
exact,
qui était désuet. Je pense que pour les plus jeunes, ils sont probablement très heureux d'être en Floride parce que t'as pas de responsabilité, t'es peut-être célibataire, t'as pas d'enfant. Mais de les amener ici, t'es obligé de découvrir un peu la ville. Je comprends que c'est pas ce que tu vas connaître.
C'est pas la meilleure semaine, mettons, là.
Ben oui puis non. En même temps, si tu tournes ça à ton avantage puis tu te dis c'est pour ça que c'est particulier jouer à Montréal. Puis là, c'est toute la direction, le coach, mais ça va jusqu'à Gabriel Gervais pour moi, de faire prendre le pouls, surtout à ces nouveaux joueurs-là, de ce que ça représente de jouer pour le CF Montréal. Bref, moi je pense que c'est important. Déjà, avec la convention collective, t'es obligé de ramener les gars chez eux pendant un certain nombre de jours. Mais moi, je pense que c'est une partie qui est très, très importante. Puis là, qu'on se soit installé de manière permanente là-bas à Marie-Victorin, hey, ils ont pris des abonnements du gym pour tous les joueurs, le staff aussi, pour s'assurer qu'ils sont pas tout le temps en train de faire l'aller-retour entre le centre Nutrilait, parce que avant là, les gars arrivaient en survêtement en autobus, ils s'entraînaient, ils partaient du terrain, tout de suite rembarquaient dans l'autobus pour aller au centre Nutrilait. T'as l'impression d'être dans tes valises pendant ces 10 jours-là, là d'être installé, je pense que c'est productif.
Là Ali, quand tu regardes cette équipe-là avec tous les nouveaux ajouts, est-ce que tu trouves qu'il y a plus ou moins de leadership que l'an passé?
Je pense qu'il y a du meilleur leadership. Puis là, je te parle d'un point de vue humain. Est-ce que tu as un Joseph Martinez dans ton équipe? Non, je pense pas. Mais ça, ça vient avec le bon et le moins bon. Ouais. Est-ce que tu as un Victor Wanyama et toute son expérience dans l'équipe? Non. Mais en même temps, Victor Wanyama, il sentait tellement désengagé. Puis c'était pas juste à la fin de la saison, là. Au bout de 3 ou 4 semaines, c'était clair que Wanyama faisait pas partie des plans, puis on se demandait s'il allait jouer ne serait-ce qu'une fois de temps en temps. La réponse a été non. Donc, ces leaders-là étaient présents l'an dernier. Martinez a été très, très important comme leader sur le terrain. Est-ce qu'il a été le meilleur leader sur le terrain d'entraînement ou en dehors, dans la vie du groupe? Je pense que la réponse, c'est non. Il a été envoyé dans les estrades par Laurent Courtois. Il a été sanctionné en milieu d'année. Wanyama, est-ce que tu as été capable de capitaliser sur le leadership sur papier qu'il représentait? Non plus. Donc, je pense que là, de voir des Fabien Herbers, des Prince Owusu, des gars qui débarquent avec les Joel Waterman, Samuel Piette, qui sont là aussi. Et les échos que j'ai, moi, c'est que dans la première portion du camp aux États-Unis, on a abordé ce sujet-là. On a fait des choses différemment pour établir des standards qui sont au-dessus de ce qu'on avait l'an dernier, où je veux pas dire qu'on est parti à la va comme je te pousse, mais il y avait peut-être pas des règles aussi fermes de ce qui est acceptable et qui l'est pas. Souvenez-vous, Gabriel Gervais, moi je lui avais posé la question l'an dernier, est-ce que tu backs ton coach à quelque part qui met des bons joueurs dans les estrades, sachant que ça se peut que tu laisses des points sur la table? La réponse de Gervais, puis j'admire ça, c'était un oui catégorique. Mais là, le train était déjà en marche. Là, que tu le fasses quand t'es à la gare pour dire, mois de juillet, là, sachez que c'est les standards qu'on établit maintenant. Je pense que ça, ça fait en sorte que c'est un meilleur leadership cette année.
T'en as laissé beaucoup sur la table avec Laurent Courtois. Juste la gestion, le côté drama, imprévisible. Puis, tu sais, est-ce que tu trouves que, bon, on a retiré du leadership, mais en même temps, ça va lui donner plus d'énergie aussi de pouvoir la consacrer ailleurs? Est-ce qu'il va y avoir moins de dossiers épineux à gérer cette année?
Ben, c'est ça. Moi, c'est on va parler de réallouer les ressources disponibles. Puis je pense que tu les as toutes utilisées, tes ressources, l'an dernier avec un Laurent Courtois qui découvrait pas seulement un nouveau club, la MLS, mais les médias aussi. Puis ça, je pense que surtout dans une réalité bilingue, ça lui a tiré beaucoup de jus. Là, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment il gère la compétition. Parce que déjà, on en a parlé au fond des filets lundi avec, avec Frédéric Laure. En attaque, tu as un joueur désigné, mais pour lequel tu n'as pas déboursé grand-chose parce qu'il s'en vient ici, puis la Nouvelle-Angleterre paie une partie de son salaire. Tu as Prince Owusu, pour lequel tu as déboursé plusieurs centaines de milliers de dollars, qui arrive de Toronto. Donc, c'est qui ton gars? Ou est-ce que tu es capable de cultiver cette saine rivalité-là entre les deux pour que tu viennes qu'à te pousser plutôt que de te retrouver avec des attaquants qui font la baboune? Là, le dernier, t'as signé Sinchuk, 18 ans, un Ukrainien. Je suis allé regarder, on n'a pas divulgué le montant du transfert, mais sur Transfer Market, qui est une database, là, de manière générale, on n'est pas très loin du compte. C'est 4,8 millions d'euros, si je ne me trompe pas.
Pardon?
Là, si on a déboursé ça pour un kid de 18 ans, là, ça va être intéressant de voir où tu vas le faire jouer parce qu'il peut jouer sur la droite, il peut jouer au milieu de terrain.
OK, c'est gros, là.
Ben, écoute, puis tu lui as donné un montant de 4 ans. Donc là où ça va devenir intéressant, c'est qu'à 18 ans, est-ce que tu peux t'attendre à ce que le gars vire la place à l'envers, même si tu as payé près de 5 millions? Je pense que tu peux pas avoir ces attentes-là pour les 6 prochains mois, mais il faut que tu le fasses jouer, il faut que tu lui donnes de la place, il faut que tu lui permettes de faire des erreurs. Mais là, Laurent Courtois, il a la job de faire ça, puis il n'est pas le seul, là. C'est peut-être le plus gros montant, mais il y a d'autres gars que tu es allé chercher puis que tu dois développer ou tirer le maximum de leur potentiel. Mais toi, pendant ce temps-là, il faut que tu ailles chercher des résultats. Parce que si tu es 13e rendu en juillet, est-ce que Laurent Courtois est encore là? Donc, je pense que ça va être ça son défi. Contrairement à gérer des personnalités, des égos, ça va être de gérer ta matière première, ton effectif pour aller chercher un progrès, des gains marginaux avec les investissements que tes propriétaires ont faits, mais aussi des résultats pour t'assurer que toi, l'année suivante, tu as toujours une job.
Ali, le CF va être la seule équipe canadienne en League Cup cette année. Est-ce que pour toi, c'est un avantage ou un inconvénient?
Je le sais pas. On a refait le format de la Coupe des Ligues, de la League Cup, qui est, pour ceux qui ont perdu le fil un peu, là, c'est la troisième année d'existence. C'est des clubs de MLS puis des clubs de championnat mexicain. Ça peut tellement être un couteau à double tranchant. Si tu arrives à faire, en bon français, une run en Coupe des Ligues, ça peut complètement changer l'allure de ta saison ou ça peut vraiment consolider là où tu en es rendu pour le sprint final après, vers les séries. Cette année, c'est ça qui est arrivé, là. C'est en revenant de la Coupe des Ligues où tout d'un coup, ça a cliqué. À l'inverse, ça t'empêche de planifier ce mois-là. Si tu n'es pas dans la compétition, tu sais exactement ce que tu as comme temps. L'inconvénient de la Coupe des Ligues, c'est que si tu joues un match, deux matchs, peut-être trois, puis là, tu es éliminé, tu te retrouves avec un trois semaines où tu te dis, on fait quoi, là? On organise des matchs hors concours, tu peux perdre un peu de rythme. Donc, j'ai vraiment hâte de voir les équipes qui ne participent pas à cette compétition-là versus celles qui participent, puis si on est capable de voir, ben, de répondre à cette question-là. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient?
Parlons un peu des Roses de Montréal qui ont dévoilé où elles allaient jouer leur calendrier et tout le reste. Qu'est-ce que tu penses de la décision?
C'est à Laval, à Bois-de-Boulogne. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le quartier général. Là. C'est l'endroit où les Roses s'entraînent. C'est là où la Fédération Soccer Québec est installée aussi.
C'est donc, gros la capacité
donc,
quand même.
Oui, oui. Tu veux dire du stade?
Ben avec j'ai entendu avec les gradins, c'est quoi? C'est au-dessus de 5000 quand même?
5800 si je ne me trompe pas. Bon, mais ça, c'est le truc. Parce que je sais qu'on a considéré le centre Claude Robillard, pour moi, ça, en termes... Parce que la chose la plus importante, là, on s'entend que le produit sur le terrain ne sera pas le plus abouti l'année 1. Tu sais, c'est du rodage. C'est comme le CF Montréal ou l'Impact dans le temps quand ils sont arrivés en MLS en 2012. C'était n'importe quelle équipe d'expansion. Puis là, c'est toutes des équipes d'expansion. Ce qui va faire la différence, c'est l'ambiance que tu vas réussir à créer de 1 et la proximité, dans tous les sens du terme, avec ta communauté, mais la proximité avec le terrain. Je me rappelle Alistair Johnston, ancien du CF Montréal, qui est à Celtic maintenant, il m'avait dit, moi, je suis passé une fois à Montréal avant de signer pour le club. Hey, la foule est par-dessus toi. Genre, tu l'as vécu là, avec tes billets aux abords du terrain, mais il y a vraiment l'idée d'une expérience compacte. Puis Claude Robillard, pour moi, c'était l'inverse de ça. Pour ceux qui ne le savent pas, tu as une piste d'athlétisme. C'était loin. Je sais qu'il y a quelque chose de mythique là-dedans, puis ça représente les débuts de l'Impact de Montréal au début des années 90, mais de voir qu'on installe, parce que là, c'est neuf, là, on va installer des nouveaux gradins, et la capacité, c'est top, là. 5800, moi, je serais surpris que ce soit pas sold out pour le premier match, et t'es proche des filles. Tant pour l'expérience des gens qui vont être dans les estrades que pour l'expérience des filles sur le terrain. Imagine, là, t'as des gens qui sont collés sur tes lignes de touche. T'as 5800 personnes qui sont dans les estrades. Je trouve que dans un monde idéal, t'aurais fait ça sur l'île parce que les Roses, on a fait un clin d'œil à Five Roses. Puis... Mais ça, c'est très, très Montréal. Là, t'es à Laval. Et j'ai hâte de voir si, à très long terme, on voudrait pas se replacer, mais dans l'idée d'un stade compact qui est dédié spécifiquement au soccer féminin, puis c'est le premier au pays, je trouve que c'est extraordinaire.
Oli, on n'en a pas parlé encore, mais juste rapidement un mot sur la Coupe des champions.
Hey, la Ligue des champions, honnêtement, l'année passée, à la dernière journée de la phase de groupe. Okay, les équipes ont toujours, en phase de groupe, joué 8 matchs. Mais d'habitude, c'était 6 matchs, pardon. Là, tu te retrouves avec... L'an dernier, là, t'avais seulement 2 équipes. Cette année, t'avais seulement 2 équipes qui étaient assurées d'une place en 8e de finale. En 16e de finale. En 8e, pardon, parce que c'est round of 16. Toujours compliqué de faire le lien entre les deux. Là, cette semaine, t'avais 27 clubs qui se battaient encore pour quelque chose. T'es passé de 32 à 36 équipes. Moi, je pense que pour ça, puis je comprends que les gens étaient un peu romantiques de l'époque où t'allais jouer contre l'AC Milan, puis après, tu recevais l'AC Milan. C'est vrai, t'étais capable d'essayer de développer des rivalités comme ça. Là, tu jouais contre des adversaires différents. T'en jouais 4 sur la route, t'en jouais 4 à domicile. Dans l'optique d'essayer de faire grandir ces compétitions-là, c'est la même logique que la FIFA. On s'entend que ce qui dicte ces décisions-là, c'est clairement pour faire du cash. C'est pas le sportif à proprement dit. Mais je pense que le sportif a pas souffert au point de dire « Hey, c'était vraiment une erreur de passer dans ce mode-là. » Surtout sachant que là, tu avais 27 clubs sur les 36 qui étaient encore dans le coup. Et là, tu en as 8 qui se qualifient directement pour le prochain tour. Les 8 suivants vont jouer un match de barrage pour rentrer dans la ronde des 16. Mais là, c'est là où ça devient intéressant parce que tu étires le temps et le nombre d'opportunités où des gens peuvent ou peuvent pas se qualifier pour un prochain tour. Je pense que dans l'ensemble, c'est réussi.
Merci, Big.
Merci beaucoup, Ali. Au fond des filets.
Max Crépeau, aujourd'hui, ça va être disponible à 17h, si je ne me trompe pas. Max Crépeau, qui est aussi passé dans nos studios pendant le temps des fêtes, toujours super intéressant, nous parle de ce que c'est d'affronter Lionel Messi, 2 fois plutôt qu'une. Sa vie à Portland, une ville weird dans tous les sens du terme. Bref, super intéressant à écouter sur notre chaîne YouTube, la Commission Athlétique.
On ne manque pas ça, Big.
Toujours un plaisir. Right.
Salut!
Stay weird. C'est quoi leur devise? Stay weird?
Keep it weird.
Keep it weird. Keep it weird.
Je te confirme, je suis allé il y a 2 ans. C'est ça. C'est promesse tenue.